Actu SF, les podcasts.
Alex Bell, donc on vous accueille pour Emmuré, qui est paru en France chez Milan. Dans ce texte, on est dans notre monde et dans notre présent, sauf le prologue qui se situe en 1910. Et chez vous, on n'est pas dans la fantaisie, on est plutôt dans le fantastique. C'est-à-dire que le roman commence, Sophie et son meilleur ami Jay ont une application sur le téléphone qui reproduit une planche Ouija. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la magie qu'ils rencontrent? Est-ce qu'ils vont s'en féliciter ou est-ce que c'est pas le début des ennuis pour eux? Le livre commence avec l'utilisation d'une application avec un Ouija, le tarot Ouija, parce que je pensais que c'était plus intéressant de passer par le téléphone plutôt qu'un Ouija à l'ancienne.
Thank you.
quand j'étais ado, nous, on aurait fabriqué notre propre Ouija. Mais en fait, j'aimais bien cette idée d'utiliser l'application parce que ça faisait qu'il y avait quelque chose qui faisait peur, qui, dès le début, ça fait peur et le fantôme hante le téléphone. Et je trouvais que ça faisait un peu. Que ça rajoutait un niveau supérieur. Alors en fait, je pensais que dans une histoire d'horreur, tout commence quand le personnage fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Et une fois qu'il se rend compte qu'il n'aurait pas dû le faire, c'est trop tard, ça, tout un engrenage s'est lancé.
Concernant pour un petit peu, Jay, le meilleur ami de Sophie, va mourir. Ça, c'est le début, donc je ne dirais pas trop de choses. En fait, la question, c'est est-ce que c'est du fantastique, entre guillemets, pour eux, ou est-ce que c'est la réalité? En fait, ils ne savent pas si. C'est la question en fait au début. On ne sait pas si effectivement ce sont des coïncidences ou si ils ont déclenché quelque chose de mauvais.
Dans les histoires d'horreur, un peu d'ambiguïté rend les choses plus réalistes. Je ne vais pas qu'on plonge tout de suite dans le fantastique, je veux que ce soit plus subtil, parce que c'est plus effrayant en réalité.
La deuxième question importante, me semble, dans tous les textes, en fait, c'est la question des secrets. Il est beaucoup de questions de secrets dans vos textes. Dans Engrenage et Sortilège, vos deux jeunes héros manquent d'être enlevés, et en fait, on ne sait pas du tout pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu sans trop en révéler pourquoi est-ce qu'on les vise eux alors que ce sont juste des étudiants encore?
Alors effectivement, c'est le cœur de l'intrigue. Je ne vais pas trop en révéler évidemment. Mais effectivement, c'est basé sur le mystère. C'est la question première, c'est pourquoi ils sont visés? Parce qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Les deux héros, c'est une jeune fille qui est mécanicienne, qui est passionnée de sens, qui est passionnée de mécanique, de construction d'automates, qui passe son temps à réparer des machines et qui n'aime pas trop les gens. Et l'autre personnage, c'est un jeune magicien, un peu snob, un peu avec lui-même, qui est issu d'une famille très haut placée dans l'Empire. Et leur seul point commun, globalement, c'est qu'ils vont à la même école, en fait. Et le cœur de leur enquête, c'est pourquoi ils nous ont choisi tous les deux, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui fait que toi comme moi, on est une cible pour ces gens qui essaient de nous enlever. Alors je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça parce que sinon ça serait un peu plus loin.
Est-ce que vous pouvez nous parler par contre du système de magie avec l'Arcanium, les favoris?
Alors en fait, mon univers, c'est basé sur la magie et la mécanique sont basées sur la même ressource qui est l'Arcanium, qui est une sorte de minerai à haut potentiel énergétique qui peut être soit réduit en poudre et transformé en essence. Et utilisé dans des machines comme carburant, comme source d'énergie pour les machines, pour les automates, etc. Soit utilisé, absorbé, consommé par les magiciens pour ensuite en extraire la magie et la modeler en sortilège. Et donc, du coup, ça donne évidemment lieu à une querelle, une dispute entre les magiciens et les mécaniciens, qui sont tous les deux à la recherche de la même ressource et qui considèrent tous les deux que leur art et leur manière de consommer cette ressource est plus intéressante, plus importante, plus moderne, plus efficace que ce qu'on fasse. Donc les deux fonctionnent sur la même base, mais pas du tout de la même manière.
Les favoris? Les favoris? Le chat? C'est pas
Des familles.
Des familles, pardon, excusez-moi.
Chercher la coiffure, je sais pas. Oui, dans les familiers, en fait, c'est pour les magiciens uniquement, mais en fait, les familiers sont des animaux qui ont été enchantés pour servir de réservoir de magie post-portative. Donc, c'est-à-dire que l'arcanium est naturellement consommé quand il est utilisé pour faire un sortilège, mais s'il est mis, intégré dans un organisme vivant, dans un animal, il est régénéré petit à petit. Et du coup, ça permet aux magiciens de puiser dans leur animal de compagnie, dans leur familier, pour en lancer beaucoup plus de sortilèges, beaucoup plus souvent, beaucoup plus efficacement et en consommant moins d'arcanium, qui est une sorte de manière d'éviter de bouffer tout l'arcanium qui fait.
Et en plus, les familiers y parlent.
Et les familiers y parlent, donc ça me permet de lancer des petites copies bien senties dans le monde du bouquin.
Dans le
bâton
de Rossigan, l'existence même du héros est entourée de secrets et de non-dits.
Oui, y compris pour lui d'ailleurs. Le héros a, semble-t-il, des capacités hors normes, notamment de régénération. Il est capable d'entendre un oiseau voler à 200 mètres à peu près, mais seulement du côté gauche. C'est l'autre côté d'ailleurs, c'est celui-là. et petit à petit, au fur et à mesure de ses aventures, il cherche lui-même. D'ailleurs, l'essentiel de ses aventures a pour but de trouver des archives ou de trouver des gens qui vont pouvoir lui donner des informations sur ce qu'il peut être, puisque il y a effectivement des races, on disait tout à l'heure, qui ont des pouvoirs particuliers. Je pense par exemple, tout le monde connaît les garous qui peuvent se transformer en animaux. Il y a aussi des change-sang qui sont capables de modifier la lumière autour d'eux et pour créer des illusions, changer d'apparence, des choses comme ça. Il y a des humains, qui sont à la fois des humains et des animaux, qui ont des sens en lien avec leur animalité et des visages qui sont proches de bêtes féroces. Mais donc, toutes ces races sont très rares. Il y en a une qui est plus rare que rare, puisque le dernier représentant est censé avoir disparu depuis plus de deux siècles. Et au fur et à mesure de ses recherches, Kosigan a l'impression qu'il pourrait bien être lié à ça. En fait, il n'en sait toujours rien au bout des quatre tomes. voilà. Mais en tout cas, on sait qu'il enquête, il fait des recherches sur sa mère, et c'est toujours en parallèle des aventures qu'il vit. Lui qui est un grand mercenaire, capitaine de compagnie d'espionnage au service des rois et des empereurs, eh bien, il essaie de profiter à chaque fois de ses missions pour faire avancer sa connaissance. Et donc en même temps, il apprend des choses sur la source, il apprend des choses sur la magie, il apprend des choses sur les races, mais sur lui, trop peu, pas grand-chose. A priori, il aurait ce fameux noir sang qui serait le sang des divinités. L'idée, c'est qu'il semble bien, à travers les livres, que les divinités anciennes, les dieux anciens des différents panthéons aient pu effectivement parcourir la Terre, vivre réellement au milieu des humains, et que petit à petit, avec les siècles, il n'était peut-être pas si immortel que ça, et finalement, il y en a de moins en moins, et qu'il disait finalement ça. Alors, peut-être que Kosigan a un lien avec ça, mais on n'est toujours pas sûr tout à fait à la fin. Ça sera pour la prochaine fois.
Donc il y a aussi le capitaine d'une troupe de mercenaires d'élite. Est-ce que, du coup, il a des missions secrètes à accomplir? Est-ce qu'il n'a pas un rapport un peu compliqué avec la vérité? Parce que pour lui, c'est la mise en lumière, et du coup, c'est plus...
Alors, il fait feu de toi, donc la vérité, il l'aime parce qu'il l'utilise, il est capable il la connaît bien, il est capable de la dissimuler quand il le faut, de l'utiliser quand elle lui sert. C'est un homme malin, intelligent, roublard, charismatique, et son seul défaut, c'est que tout le monde le sait.
Béatrice Beauté. Dans le secret de la dame en rouge, on commence par le secret, le titre. Quel secret, à part son affinité avec l'eau, est-ce que cache Violette?
Le secret de sa naissance, sans doute, elle vit une double vie qui est aussi anormale d'un côté que de l'autre. Sa famille naturelle est faite d'un père autoritaire, qui a une emprise très très forte sur le reste de sa famille, d'une mère faible, presque ectoplasmique,
tellement elle a été maltraitée psychologiquement, en tout cas par le père, par un petit frère, je suis entendu un petit frère pour le moment. Et donc, dans cette famille, le père veut la marier à un de ses amis à lui, parce que, évidemment, ça arrange ses affaires. La deuxième partie de sa vie, elle se trouve une autre famille, si on peut dire, qui est faite d'une reine des truands, elle-même flanquée d'un amant qui a 10 ou 15 ans de moins qu'elle, cette dame. Elle, elle est extrêmement manipulatrice, comme le père dans certains sens. C'est une famille en, comment dire, en miroir, en quelque sorte, positif d'un côté, négatif de l'autre. Mais les positifs ne sont pas forcément ce qu'on croit, et les négatifs non plus. Et son secret, c'est que surtout, il ne faut pas que son père la retrouve. Quoi. Elle est encore mineure, et le père a l'absolue autorité sur elle. Donc son secret, c'est qu'elle elle tait son origine, elle la cache absolument, pour pouvoir vivre une vie de femme libre, ce qui est difficile à la fin du XIXe siècle. Et bien encore, on est encore à une époque où les femmes sont considérées comme des petites choses sympathiques, fragiles, et puis à mettre sur une commode comme un petit bijou, comme une petite porcelaine. Ne parlons pas des ouvrières, des bonniches et tout ça, qui ne comptent absolument pas, qui sont bonnes juste à travailler. Et donc la hantise de Violette, c'est d'être retrouvée par son père. Donc, dans ce cas-là, elle se retrouverait jeune fille mineure, renvoyé au couvent, notamment avec un marié, babodou et tout ça. Mais la deuxième face de cette jeune fille, c'est d'être une femme extrêmement sophistiquée, bien maquillée, bien habillée, qui a de la morgue et de l'arrogance, et qui va faire des consultations extrêmement chères, des consultations de voyance. À chaque fois, il y a un double aspect dans la vie de Violette, et son secret, c'est peut-être juste ça, d'être une femme qui cache une apparence derrière une autre apparence, et qui, au fond d'elle-même, c'est une petite jeune fille qui n'a pas 20 ans, elle rêve d'amour, elle rêve d'un compagnon avec qui elle soit idéalement bien, et sur qui elle va tomber, sur un gars qui est encore limite, quoi. Donc, tous ces secrets-là accumulés, c'est autant de peaux de lion, presque, qui cachent sa vraie nature, et sa vraie nature, elle réapparaît tout le temps, c'est-à-dire au coin d'une page, au coin du bois, au coin d'une ruelle mal famée ou d'un couloir de salon coupé, c'est qu'elle est avide d'une relation exceptionnelle. Quoi. Qu'elle connaît presque avec sa famille adoptive une famille de truands, mais c'est bien d'avoir une famille adoptive, mais ce serait mieux d'avoir un grand amour. Quoi. Parce que je suis fleur bleue. Donc, vous allez avoir la recherche du grand amour dans beaucoup des ouvrages que j'ai fait. Donc, il y a plusieurs. Oui, Violette vit une vie de secret multiple, en fait. Ses parents ne savent absolument pas qu'elle est morte, évidemment. Ses parents ne savent pas ce qu'elle est devenue. Ses parents ne savent pas qu'elle a fait une vie prostituée. Sa famille adoptive, les truands, Belleville, ne savent pas qu'elle a une famille qui lui a bien réclamé sur elle. Et elle se garde de tous les côtés. Elle en vient très cuirassée de froideur, presque minérale. Mais elle joue le jeu parce que jusqu'au jour où elle sera majeure, elle ne peut pas faire autrement que dissimuler sa vraie nature. Donc au moins, en étant voyante, elle est tranquille. Bon, d'accord, ses parents adoptifs lui volent tout ce qu'elle a. De se rembourser des frais qu'ils ont engagés pour elle. Elle n'a pas un sou, personnel, mais c'est un moindre mal.
Non, sur le secret, on prend
le secret de
Alors, Alex Bell, il y a aussi beaucoup de secrets dans votre histoire. Parce qu'en fait, Sophie va aller à l'île de Skye passer quelques semaines. Et en fait, elle va découvrir les secrets de cette maison qui est une ancienne école. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Nous parler notamment des poupées Frozen Charlotte, qui donnent le titre en fait en anglais.
Yeah,
En effet, Sophie va donc sur l'île de Skype vivre avec des cousins qui vivent dans une maison qui est en fait une ancienne école, ouverte. Je ne voulais pas que ce soit une maison familiale traditionnelle. Je voulais que ce soit un endroit où une famille pouvait vivre, mais que ce soit un peu différent de ce que j'avais vu de par le passé. Et pour moi, une ancienne école, c'était parfait, parce que les anciennes écoles, c'était des endroits assez stricts et où les élèves pouvaient être assez malheureux. Arrive à cette école, cette maison, elle découvre dans la cave des poupées qui ont été en fait emmurées, emplâtrées dans le mur, comme pour les retenir, pour les emprisonner. Elles sont toutes petites, elles font entre 5 et 10 cm et elles ont des bras tout droits, elles n'ont pas de. Excusez-moi. D'articulation, oui. Elles sont censées symboliser une jeune fille qui est morte dans la neige. Alors moi, je ne connaissais pas ces poupées qu'auparavant. Je me suis dit que c'était très intéressant.
So there are little bits of the school's history, so they're in house in the form of photos and old school desks and things. And they're basically trying to work out what happened in the past. So they know that the school had a sort of bad history and ended up being closed after several of the girls were hurt. And they basically have to try and work out how the dogs were involved in that, and why they're there and how the school came to be closed in the first place. So they know there were a couple of deaths as well, and it's really that bit of the story is now trying to work out to what extent dogs were responsible and whether it might happen again.
Alors, voilà. Donc, l'histoire de l'école est assez négative. Ils veulent connaître cette histoire, ils voient des photos, des photos anciennes, ils voulaient savoir ce qui est arrivé. Ils savent qu'il y a eu des choses terribles qui ont eu lieu dans l'école, des filles blessées. Et l'histoire, c'est ils veulent comprendre quel rôle ont joué les poupées dans ce qui est arrivé, parce qu'il y a eu des morts. Et elles veulent comprendre, ils veulent, les personnages veulent comprendre la responsabilité des poupées.
Et les cousins aussi de Sophie ont eux aussi une vie très difficile, parce qu'ils ont perdu une de leurs sœurs, et il y a des choses non résolues dans la famille, des tensions, des secrets aussi entre eux.
Il y a beaucoup de secrets, en effet. C'est une dynamique différente. Ça rajoute une couche supplémentaire au mystère. Il y a les poupées, mais il y a aussi la famille, qui a été temps très difficile. Donc voilà, une autre chose qui m'intéressait, c'était que les fantômes, les poupées maléfiques, ce sont des ressorts très efficaces. Mais je voulais me concentrer aussi sur une dynamique familiale et sur l'horreur, les choses horribles qui peuvent arriver dans une famille. C'est plus subtil que les poupées hantées. Et ça rajoute une couche supplémentaire à ce qui fait peur au monde.
Je voulais qu'on parle un petit peu maintenant de la magie des écrivains, c'est-à-dire l'art du récit notamment. Parlons un petit peu déjà de voilà. Est-ce que pour vous l'écriture c'est facile, en fait, ou est-ce que écrire un livre ça vous demande du temps, ça vous demande des efforts, est-ce que pour vous, voilà, dans quelle catégorie vous vous situez?
Clairement, ça demande des efforts. J'ai pas confiance aux écrivains qui disent qu'ils font pas d'efforts pour écrire. Je crois pas. J'ai tendance à penser que ça demande. Alors effectivement, je pense que les idées arrivent plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que c'est des inspirations, des illuminations, des choses qui arrivent parce qu'on a vécu, vu, observé, pensé, réfléchi, discuté. Et on arrive à agglomérer une pensée qui peut se traduire ensuite en roman, en histoire, en personnage, en situation. Mais après, il faut l'écrire, et ça, c'est du boulot. Et c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe, qui est une sorte de un craft. J'ai jamais réussi à trouver un craft. Un artisanat, je ne sais pas trop vraiment comment le traduire, c'est pas exactement le terme en français. Et c'est quelque chose qui mérite, qui demande d'être toujours amélioré, qui est une sorte d'équivalent de la structure ou de la peinture. En fait, on commence, on dessine des bonhommes qui ressemblent à rien, et puis au fur et à mesure, on commence à apprendre qu'il faut rajouter le cou, et puis on commence à apprendre qu'il faut que les cheveux prennent autrement qu'en mettant un petit trait, et puis on apprend que pour faire des ombres, et puis des mouvements, et puis des articulations, et puis des choses en plus. Et écrire, pour moi, c'est la même chose en fait. C'est qu'on commence avec. En pensant que l'histoire fait tout. Et on arrive au fur et à mesure que l'histoire c'est important, mais qu'en fait c'est que le squelette. Et ensuite il faut mettre de la chair par-dessus, il faut mettre des tendons, il faut mettre des muscles, il faut mettre de la peau, il faut mettre des apparences, il faut mettre du décor derrière. Et au final, pour moi, écrire c'est apprendre à faire quelque chose de mieux en mieux dans le monde qui est le réel, le réel, l'imaginaire, de la manière la plus visuelle, puissante, fatiguée, sociale possible, enfin, tout ce qu'on peut mettre. On apprend en fait à faire à mon avis de mieux en mieux. Et j'ai toujours combattu très très fermement tous ceux qui pensent que l'écriture c'est un talent, ou un don, ou une inspiration d'une quelconque mousse qui avait soufflé des cheveux à l'oreille. Non. C'est le début, d'accord. Effectivement, l'inspiration initiale, je veux bien entendre qu'on pense à quelque chose, on a peut-être des idées peut-être plus facilement, peut-être une imagination qui va peut-être plus loin que certaines autres personnes qui ont du mal à faire, je sais pas, j'imagine. Mais par contre, tout le reste, c'est du travail, c'est de réussir à mettre les choses en place, à apprendre de mieux en mieux, à raconter des histoires. Pour moi, c'est du travail, et j'aime pas l'idée que c'est un peu une sorte de magie qui descend du ciel. Pour moi, c'est pas de la magie, c'est du travail, de l'artisanat.
Violette, il sait pas d'où lui vient son nom, en fait, tu vois, tu peux le. Moi, je ne sais pas d'où me vient mon imaginaire. Ça vient d'ailleurs, sans doute. Dans ma famille, dans mon milieu, j'étais la seule à avoir de l'imagination. J'étais la seule à créer dans ma tête. Enfin, je parle de l'époque où j'avais 13 ans, presque 14 ans. Peut-être avoir la puberté, je ne sais pas. Mais où je pouvais bâtir des mondes. Comme un petit cinéma dans la tête, quoi. Après, il suffisait de l'écrire. Contrairement à toi, je pense que il y a quelque chose d'un don fait par votre destin, mais Dieu, quel qu'il soit, ce que vous voulez. Certains, comme je disais tout à l'heure, le don pour courir vite, d'autres le don de grimper aux arbres, d'autres le don des mathématiques. Et c'est vraiment, à chaque fois, un cadeau reçu dont on ne sait plus. Bien, en ce qui me concerne, j'avais justement toujours dans ma tête un petit cinéma qui marchait en permanence. Il suffisait après de raconter ce que j'avais vu souvent dans mon demi-sommeil, mais pas toujours. Et puis après, une fois que c'est lancé, rien. Après, le reste, c'est du travail. Il faut se mettre devant un papier ou un ordinateur, et puis bosser, quoi. L'image, c'est qu'il faut du tout, il faut partir. Souvent, mon imaginaire était un point de départ. mais c'est vraiment une magie, parce que vous ne la commandez pas, vous ne la dirigez pas. Vraiment, pour moi, c'est l'impression que j'ai toute ma vie, d'avoir une sollicitation très très fine suffit à embrayer quelque chose. Mais il faut quand même créer des personnages, leur donner de la chair, comme tu disais, leur donner du... Il faut travailler les personnages, chacun à leur tour, les élaborer, leur donner des... les rendre différents des autres. Ils ne sont pas tous bâtis selon un stéréotype plus ou moins grossier. Et puis, il faut travailler plusieurs heures par jour pour fournir 10, 12 ou 15 pages de romans, puisque c'est une question de romans. Moi, j'écris des romans historiques, donc je passe beaucoup de temps en documentation aussi. Je ne veux pas écrire que en 1812, on commence à édifier la Tour Eiffel, parce que c'est pas à cette époque-là. Je veux pas qu'on dise que, oh là là, il regardait sa montre à son poignet. Non, ça c'est après 1900 des montres de poignet, sinon c'est comme ça. Ah, je prépare une suite de pommes de terre, parce qu'au Moyen-Âge, non, il n'y a pas de pommes de terre, et ainsi de suite. J'essaye de donner un cadre historique vraisemblable comme décor à mes fictions. Et c'est pour ça que je trouve que la science-fiction est plus facile à écrire que dans l'histoire. Parce que vous pouvez écrire ce que vous voulez, il n'y a personne pour vous contrôler. Il y a beaucoup de critiques qui disent « Oui, mais il faut s'y connaître en science. » Bon, vous en fichez, non, vous pouvez écrire ce que vous voulez, c'est votre imagination qui décide. Donc, la magie, ah oui, la magie d'écriture, je l'ai senti dans la magie d'une création qui vous échappe, quoi. D'une faculté qu'on possède ou pas de créer des mondes. Et là, vraiment, pour les réaliser, pour toucher des lecteurs aussi, parce que finalement, ce monde que vous avez créé va séduire peut-être une personne, l'éditeur, mais peut-être aussi beaucoup de personnes, vos lecteurs. Ça, c'est magique d'avoir une influence sur ces lecteurs. Ah, ouais, c'est magique d'avoir une influence. Oui, je me sens bénéficiaire d'une magie qui m'échappe, en tout cas. Magicien un petit peu aussi. Mais surtout bénéficiaire d'un sortilège unique.
Madame la Sérédie ?
Moi, je rejoins les deux idées. Hein, le fait que ça nous vient un peu magiquement, justement, en ce qui concerne l'inspiration. Mais qu'après, l'essentiel, effectivement, de notre temps correspond, comme tu disais, à construire tout ce qui est autour et à faire passer nos idées de manière à ce qu'au final, ça touche les gens qui lisent et le public. Et c'est, là je rejoins vraiment Adrien, c'est extrêmement difficile. Moi j'écris avec mon frère, par exemple, sur l'ordinateur. Ça me fait toujours penser au prince d'ambre de Zelazny. En fait, le passage de la marelle, c'est exactement le reflet du travail de l'écrivain. C'est-à-dire que le début est relativement facile. Cette magie de départ, ces idées, cette inspiration. Et puis, plus on avance, plus c'est difficile, et ça devient comme un mur, et on suce en haut, et on n'est pas sûr d'arriver au bout, et on doit reprendre, recommencer. Et par contre, une fois qu'on est arrivé au bout, une fois qu'on a traversé, donc pour les princes d'ambre, la marelle, je ne sais pas si vous connaissez les princes d'ambre, mais c'est une sorte de. Là, c'est difficile à définir. Un objet, une marelle, mais tracée avec des lignes sur le sol, qui au final leur donne des pouvoirs et leur permet de se transporter partout dans l'univers. Et une fois qu'on est au centre, on a fini donc ce travail, et pour nous, quand on a fini l'écriture, là c'est merveilleux, c'est l'aboutissement. On a créé un monde, on a créé des personnages, on a été Dieu, on a été des murs, on a été. Et waouh! Mais par contre, pour en arriver là, quel travail, quels efforts, quel. Bravo, Mie! Et sinon, moi, mon inspiration, elle me vient souvent. Alors, quand j'ai pas dormi de la nuit, je me suis couché à 5h du matin, je me suis bien amusé, et je me réveille à 8. Donc, je ne veux pas du tout me réveiller, hein, mais je me réveille avec des idées dans la tête. Et voilà, donc si je veux avoir ma meilleure inspiration, c'est quand j'ai fait la fête, que je suis très fatigué et que voilà, c'est là que ça me vient le plus facilement, de manière assez étrange. Et donc, du coup, c'est peut-être quand même un petit peu magique.
I think that the writing can probably be for both, so I think there are bits of it that are quite magical and effortless and joyful, but there are also bits of having success that it's just really hard work and it's actually being quite disciplined, especially if you get to the difficult bits in the book.
Donc je pense qu'en effet c'est un peu les deux, hein. Il y a de la magie, il y a des passages où il n'y a pas le moindre effort, c'est une grande heureux, mais c'est aussi un travail. Un travail acharné qui exige beaucoup de discipline, surtout quand on arrive au passage le plus difficile. J'ai toujours aimé raconter des histoires, et parfois quand l'idée arrive, je suis très heureuse. Et la différence entre un écrivain qui écrit pour le plaisir et un écrivain professionnel, c'est que parfois on ne peut pas attendre que l'inspiration arrive. Il faut l'idée maintenant. Ça peut être difficile. Alors une autre chose qui est difficile, c'est qu'on n'écrit pas juste quand on a envie, hein. Ça sera une vraie discipline. On ne peut pas choisir quand on veut travailler. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui peut être assez agréable. Parce que quand on arrive à la fin du roman, qu'on voit le résultat, on est vraiment très fiers, on est contents. Mais bon, même si parfois écrire c'est difficile, c'est bien en effet quelque chose de magique. Je suis très heureuse de le faire. Je ne pourrais imaginer ma vie sans écriture. On est arrivé quasiment à la fin de cette conférence. Donc je voulais juste demander à nos auteurs si certains d'entre vous ont prévu une suite aux textes qui sont ici ou pas. Donc, en fait, il existe un livre qui a été après Prison of Charlotte, on le rappelle en anglais, mais qui raconte des événements qui précèdent l'histoire de Prison of Charlotte, comment les poupées sont arrivées à l'école et ce qu'elles ont fait. Mais en ce qui concerne le roman Waterwitch, ce sera un seul et unique tour. Alors, on est à demain. Suite à un
brevet de sortilège. Pour l'instant, c'est encore top secret, je suis en négociation. En fait, j'ai déjà signé un roman qui s'est passé dans le même univers à la Fondation de Nemos. C'est plutôt un roman plus adulte, mais qui se passera sur un autre continent, mais dans le même univers qu'un brevet de sortilège. Et je suis en discussion avec Rajo pour un deuxième volume dans le même univers, mais aussi. Je ne peux pas encore annoncer ce qui va s'y passer, mais a priori, je suis retourné dans l'univers dans pas longtemps.
Madame Orange, Règle ses comptes est déjà un tome 2. Le tome 1 était. La fin était insatisfaisante pour moi. J'ai donc proposé à l'éditeur du Secret de la Main Rouge qui écoute, soit on rajoute environ 100 000 signes, soit il faut que je fasse un tome 2 pour bien boucler tous les éléments que j'ai laissés un petit peu flottants. Il n'y en a pas 100 000 signes de plus, non, non, tu fais un tome 2. Donc, c'était le deal, quoi, continuer. Avec ce tome 2, il n'y aura pas de tome 3. On s'arrête là, et la fin, l'ensemble de ce duo est cohérent. Donc ça va, on s'arrête là.
Moi, l'histoire du bâtard de Cossigane c'est déjà une trilogie en 4 tomes. Parce que le troisième était tellement énorme que on l'a divisé en deux. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une grande partie, enfin une partie du livre de plus en plus importante au fur et à mesure des tomes se passe 500 ans après, et dans un univers à la fin du 19e siècle beaucoup plus rationnel, où il n'y a plus de magie a priori, et où le descendant du héros justement découvre les écrits de son ancêtre et essaye de déterminer comment est-ce que tout ce que raconte son prédécesseur a pu disparaître de l'histoire officielle. Alors, pour l'instant, donc, on a un cycle, un premier cycle qui est terminé. Dans ce premier cycle, justement, à la fin, c'est pour ça que je vous en parle, on sait tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde qui explique qu'il a pu exister de la magie au Moyen-Âge et que cette magie a disparu à l'époque du descendant, c'est-à-dire fin 19e, début 20e siècle. Donc là, c'est complet de ce côté-là. En revanche, tous les mystères qui entourent le héros, et notamment ses origines, sa mère, il enquête, il cherche, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est loin d'avoir trouvé la solution à ce problème. Et donc, il y aura plus tard un second cycle de 3 tomes, éventuellement une trilogie encore en 4 tomes, voilà, qui va se finir à Rome, et qui va finir en apothéose ou pas, on verra dans quel sens ça va tourner, et qui justement aura pour sujet essentiel, principal, mais unique, le bâtard de Cossigane, sa famille. Il rentre chez lui, il rencontre les gens de sa famille, et là on rentre dans des histoires beaucoup plus familiales, complètement différentes, avec des mystères différents et plus intenses. J'essaie à chaque fois, déjà pour chaque tome, j'essaie d'avoir une atmosphère un peu différente, et pour chaque cycle évidemment aussi. Juste une dernière chose, entre deux, je travaille actuellement sur un recueil de nouvelles dans cet univers avec d'autres personnages, d'autres héros, d'autres histoires, et notamment une petite pièce de théâtre qui ira avec et qui va un peu donner. Permettre de voir des histoires parallèles dans le même univers. Pardon d'avoir parlé si vous voulez.
Donc je vous remercie toutes et tous, et donc je rappelle à notre public qu'on peut vous retrouver sous la vue du public. Merci à vous.